Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour, comment allez-vous bien? Aujourd'hui, jour de grâce, eh bien, plongeons dans la catéchèse de maintenant, en nous confiant les uns les autres à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons commencé une petite série sur la foi. C'est un peu plus qu'une petite série, cela nous va prendre plusieurs catéchèses, qui, je pense, cette série sera interrompu parce qu'il y aura des choses spéciales qui vont arriver, le tirage des saints, notamment avant la Toussaint. Et puis, il y aura aussi, justement, la Toussaint, les défunts, le 2 novembre, etc. Ce qui nous permettra de parler un petit peu du ciel, de l'enfer, du purgatoire et de tout ça. Mais voilà, on prend le temps de creuser un petit peu ces questions essentielles pour notre vie spirituelle, pour notre vie tout court. Alors aujourd'hui, je voudrais voir avec vous comment peut-on connaître Dieu ? Parce que bien sûr, nous le verrons, nous chrétiens, on affirme que nous connaissons Dieu parce que d'abord il se révèle. Et que la foi sera la réponse, l'obéissance de la foi à ce Dieu qui se révèle. On parlera de la révélation divine, de la révélation surnaturelle de Dieu. Dieu qui nous montre son visage. Dieu qui nous dévoile son intériorité. Dieu qui nous dévoile son identité profonde. Mais avant de le connaître tel qu'il se dévoile, tel qu'il se révèle à nous. Est-ce que la question qu'on peut se poser, est-ce que les êtres humains, prenez tous les êtres humains là, qui sont sur la planète en ce moment, est-ce que on peut connaître Dieu ? Nous avons parlé dans la dernière catéchèse de ce désir qui nous pousse bien sûr vers un absolu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, dit le psaume. Mais est-ce qu'on peut résolument, en vérité, connaître Dieu ? Nous avons vu que notre nature, nous sommes des êtres, l'être humain est naturellement religieux, religaré, lié à Dieu. Mais comment ? Quel est ce lien ? Alors justement, le catéchisme, entre les paragraphes 31 et 43, nous explique ces choses d'une manière très très bien, comme tout le catéchisme d'ailleurs. Et il nous dit ceci, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, ce qu'on appelle dans la tradition les voies d'accès à la connaissance de Dieu. On va voir tout ça. La question de fond, c'est est-ce qu'on peut connaître Dieu en vérité, en vérité ? Créé à l'image de Dieu, appelé à connaître et à aimer Dieu, l'homme qui cherche Dieu découvre certaines voies, V-O-I-E-S, pour accéder à la connaissance de Dieu. On les appelle aussi preuves de l'existence de Dieu, non pas dans le sens des preuves que cherchent les sciences naturelles, mais dans le sens d'arguments convergents et convaincants qui permettent d'atteindre à de vrais certitude. En effet, nous ne pouvons pas prouver l'existence de Dieu au sens strict, au sens de la démonstration scientifique. Mais en partant d'en bas, c'est-à-dire de la création, du monde matériel, de nos expériences humaines et de la personne humaine, notamment l'amitié, on va le voir, l'expérience de la souffrance, l'expérience du mal, l'expérience du bien, de l'amour, de toutes ces choses que nous allons développer maintenant, à partir de tout ça, est-ce qu'on peut atteindre de vraie certitude quant à l'existence de Dieu. Pour cela, frères et sœurs, il ne faut pas faire fi de la philosophie. Bien sûr, d'une bonne philosophie. Une philosophie qu'on appelle réaliste, c'est-à-dire qui, à partir de l'expérience, essaye de remonter à des principes premiers. Au sommet de la philosophie, il y a ce qu'on appelle la métaphysique qui se pose à la question de l'être des choses, de ce qui est. Et puis, ce qu'on appelle la théologie naturelle, c'est-à-dire est-ce qu'à partir de ce qu'on peut dire en termes de métaphysique, est-ce qu'on peut poser philosophiquement, c'est-à-dire intellectuellement, d'une manière réaliste, vraie, avec certitude, est-ce que l'intelligence humaine peut poser, sans se tromper, non pas la possibilité, mais la certitude de l'existence d'une réalité que toutes les traditions religieuses appellent Dieu. Alors les philosophes, ils ne vont pas appeler ça Dieu, ils vont appeler ça être premier, ils auront plusieurs mots pour ça. Mais la question de fond, c'est est-ce qu'on peut connaître naturellement Dieu? Je vous donne tout de suite la réponse. Parce que ça fait partie de l'enseignement de l'Église. C'est spécifique à l'enseignement de l'Église catholique que d'affirmer ces choses. Je vais vous dire. La Sainte Église, notre mère, tient et enseigne. Elle tient et enseigne. Et si elle a pris le temps de formuler ces choses, c'est que c'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. La Sainte Église, notre mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Ah bon ? On n'est pas que dans le pathos de nos expériences. Non. À partir de nos expériences, à partir des choses créées, on peut remonter à l'existence de Dieu. Est-ce qu'on a besoin d'une révélation spéciale, publique, surnaturelle de Dieu pour ça? Non. Ah bon, ça veut dire que tout homme, toute femme, quelle que soit sa religion, qu'il soit païen, athée, agnostique, rouge, bleu, jaune, vert, tout homme, toute femme, tout le monde peut accéder à l'existence de Dieu? Naturellement, oui. Sans cette capacité, l'homme ne pourrait accueillir la révélation de Dieu. Ah, l'homme a cette capacité, pourquoi? Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Capax Dei, capacité de connaître naturellement. Oui, mais est-ce que la connaissance de l'homme, est-ce qu'elle se limite dans les différents domaines de connaissance que nous connaissons, que nous pouvons énumérer, la connaissance scientifique, philosophique, artistique, affective, on a technique, on a plein de domaines de connaissance. Mais est-ce que au milieu de tous ces domaines de connaissances et de toutes ces connaissances que nous avons sur plein de choses, est-ce que nous pouvons connaître naturellement Dieu? Alors l'Église dit oui. L'Église dit oui, pourquoi? Parce que même les papes vont beaucoup parler de ça, notamment Jean-Paul II dans Fides et Ratio, il a fait une encyclique spéciale sur le lien entre la foi et la raison. Pourquoi? Parce que ce sont ce qu'on appelle les deux ordres de connaissance. Pour accueillir le mystère de Dieu, de la Sainte Trinité, et tout ce qui va avec, tout ce qui fait partie du dépôt de la foi, pour accueillir le dépôt de la foi dans sa plénitude, il faut que déjà, dans notre nature humaine, d'être humain, nous soyons capables de connaître Dieu naturellement. Alors, ce que disait le Concile Vatican là-dessus, c'est ce que je vous ai dit, cité par le catéchisme. D'autres documents de l'Église lui le disent. Pie XII le dit. Dei Verbum, plus récemment. Jean-Paul II, en 98, dans Fides et Ratio. Maintenant, regardons du côté de l'Écriture, la Sainte Écriture elle-même. Qu'est-ce qu'elle nous dit là-dessus? Par exemple, dans le livre de la Sagesse, au chapitre 13, « Oui, vains par nature tous les hommes en qui se trouvait l'ignorance de Dieu, qui, en partant des biens visibles, n'ont pas été capables de connaître celui qui est, et qui, en considérant les œuvres, n'ont pas reconnu l'artisan. » Mais c'est le feu, ou le vent, ou l'air rapide, ou la voûte étoilée, ou l'eau impétueuse, ou les luminaires du ciel, qu'ils ont considérés comme des dieux, gouverneurs du monde. Que si charmés de leur beauté, ils les ont pris pour des dieux, qu'ils sachent combien leur maître est supérieur. Car c'est la source même de la beauté qui les a créés. Pour ceux qui ont du mal un peu à s'aimer en ce moment, hein, je vous le dis, allez voir, Sagesse 13, verset 3. C'est la source de la beauté qui vous a créé. D'accord? Si vous avez un peu de mal avec vos rides et votre... Et si, je poursuis, c'est la sagesse, et si c'est leur puissance et leur activité qui les ont frappés, qu'ils en déduisent combien plus puissant est celui qui les a formés. Car la grandeur et la beauté des créatures font, par analogie, contempler leur hauteur. Ceci toutefois ne mérite qu'un blâme léger, peut-être en effet ne s'égare-t-il qu'en cherchant Dieu, et en voulant le trouver. Versé dans ses œuvres, il les explore et se laisse prendre aux apparences, tant ce qu'on voit est beauté. Vous voyez, toutes ces personnes, par exemple, qui aiment regarder les étoiles, il y a les nuits des étoiles, alors ils vont dans des lieux avec des astres, avec des... C'est magnifique, alors ils sont là, en train de... Ouah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, hein, ils passent des super moments. Et si on leur pose la question, vous croyez en Dieu? Ah ben non. Ben, pourtant, ce que vous venez de vivre, c'est quand même exceptionnel. Cette beauté que vous avez contemplée pendant des heures, n'aurait-elle pas une source? Par analogie, est-ce que votre intelligence humaine, par analogie, est capable de dire, bon, en partant de la beauté de ce que je regarde, de ce que j'entends, non, il y a les chants des oiseaux, mais c'est un régal, frères et sœurs. Si vous avez du mal à louer de temps en temps, il y a les oiseaux qui aident, hein, franchement, pourtant, il faut que les petits cris à eux. Ils ont leur vie d'oiseau, quoi. Mais c'est d'une beauté qui, immédiatement, nous met dans la louange, quand même. Hein. Mais pour ceux qui n'ont pas la foi, pour les incroyants, ils disent, ouais, c'est beau. Pourquoi ils ne remontent pas à la source? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas fonctionner leur intelligence analogique en disant, eh ben de cette beauté que j'entends, que je vois, que je sens, que je touche, eh bien, je m'incline devant la source de cette beauté. Alors, c'est une beauté limitée, bien sûr, parce que si on s'approche trop du soleil, on brûle. C'est une beauté limitée, parce que si on s'aventure trop un peu de trop près dans le monde animal, on peut voir que il n'y a pas que de la beauté, il y a peut-être une cruauté, que c'est pas facile. Mais passer de la beauté créée à la splendeur de la gloire du Père. C'est ce que dira saint Augustin. Saint Augustin, il dit, interroge la beauté de la terre. Interroge la beauté de la mer. Interroge la beauté de l'air qui se dilate et se diffuse. Interroge la beauté du ciel. Interroge toutes ces réalités. Autrement dit, ne fais pas que expérimenter sensiblement. Ne te contente pas de dire ah que c'est agréable. Oh que c'est beau. Non, interroge. Toutes te répondent. Vois, nous sommes belles. Leur beauté est une profession, dit saint Augustin, confessio. Ces beautés sujettes au changement, qui les a faites, sinon le beau Pulcher, non sujet au changement? Alors il y a deux questions, deux affirmations dans ce que nous dit saint Augustin. Il y a la question du beau, bon, une grande question philosophique, théologique. Est-ce que le beau est un transcendantal? Je ne rentre pas dans cette question. Mais il y a aussi la question de ce qui change et de ce qui ne change pas. La beauté, qui pour moi est une qualité sensible de la réalité, la beauté change. Elle évolue. Nous ne sommes pas beaux à 60 ans comme à 20 ans. Nous aurions tendance à dire, ah ben à 60 ans, on est laid. Bon, à 20 ans, on était beau. Non. C'est différent. Ce serait se tromper, à mon avis, que de dire au soir de sa vie, on n'est pas beau. Non, non. Nous, en nous en regardant tout le temps les albums photos de nos 20 ans, non. Mais les beautés changent d'aspect. Pourquoi? Parce que c'est dans la réalité, la beauté. La réalité est belle, mais c'est toujours une qualité sensible, sujette au changement. Mais dans ce qui change, c'est une autre question selon moi. Et est-ce que nous pouvons postuler que, au milieu de tout ce qui est mouvant, de tout ce qui est en mouvement, est-ce qu'il y a une réalité immobile, non sujette au changement, qui est à la source du mouvement, du changement? Bon, c'est une deuxième question. Mais c'est une interrogation qui nous permet même de dire que de fait, est-ce qu'il y a une réalité immobile qui ne change pas? Donc, ceux qui passent des heures et des heures à contempler les étoiles et qui ne s'interrogent pas sur l'origine, la source, mais d'où ça vient? Est-ce qu'il y aurait une beauté non sujette au changement? Ils sont pardonnables, dit le livre de la sagesse. Quoique, il poursuit, et pourtant eux non plus ne sont point pardonnables. Ah bon? S'ils ont été capables d'acquérir assez de science pour pouvoir scruter le monde, comment n'en ont-ils pas plutôt découvert le maître? Mais malheureux sont-ils, avec leurs espoirs mis en des choses mortes, ceux qui ont appelé Dieu des ouvrages de main d'homme, or, argent, traités avec art, figures d'animaux, ou pierres inutiles, ouvrages d'une main antique. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, au premier chapitre, dira la même chose. Il nous dit à partir du verset 18 et suivant que la colère de Dieu se révèle plus haut du ciel, du haut du ciel, pardon, contre toute impiété et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Deux points. Dieu, en effet, le leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde, se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Ah bon, lui aussi, il dit que... inexcusable. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu, gloire et action de grâce, mais ils ont perdu le sens de leur, dans leur raisonnement et leur cœur, inintelligent s'étant ténébré. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre une représentation, simple image, d'homme corruptible, d'oiseau, de quadrupède, de reptile. Ah ! On voit donc que tout le monde de la création, le monde visible de la création, à travers cette création, c'est le Créateur qui se révèle, qui se manifeste. Et qu'à travers l'œuvre de la création, c'est le Maître, l'artisan, ou plus précisément le Créateur, qui nous dit, regarde, à travers la création, je te dis déjà qui je suis. Je suis Dieu, je suis créateur, je suis puissant, je suis pur esprit, je suis non sujet au changement. Déjà, à travers la création, nous pouvons dire déjà beaucoup de choses sur Dieu qui sont vraies. Alors, ensuite, Dieu va nous montrer son visage, son intériorité. Mais déjà, à travers la création, le monde matériel, il nous dit qui il est. Sans même avoir recours à la révélation qu'on appelle surnaturelle, il y a une connaissance de Dieu naturelle possible. On peut connaître Dieu naturellement. La connaissance surnaturelle de la révélation divine, bien sûr, ne va pas annuler ou aller contre la connaissance naturelle de Dieu, elle va venir nous amener beaucoup plus loin. Il y a même des vérités religieuses naturelles qui sont à la fois atteintes par l'usage de l'intelligence et reçues dans la foi, car révélées par Dieu. Par exemple, les commandements du Décalogue. Dans le Décalogue, c'est révélé par Dieu, mais en même temps complètement accessible à l'intelligence humaine, sans même avoir recours à la révélation surnaturelle. Vous me suivez? Bon. À partir du monde, du mouvement et du devenir, j'en ai dit un petit mot, de la contingence, de l'ordre, et de la beauté du monde, on peut connaître Dieu comme origine et fin FIN de l'univers. L'ordre. Qu'est-ce que c'est que l'ordre? Il y a une harmonie, il y a un ordre constatable par tous dans l'univers. Tout se tient. Sinon, peut-être toutes les semaines, il y aurait une petite météorite qui passerait là, et puis boum, voilà, New York, goodbye. Puis... le mois d'après, goodbye Paris, hein? Non. Il y a un ordre. Et le fait même de constater dans le réel, dans la réalité, un ordre, c'est l'intelligence qui fait ça. L'intelligence, elle repère dans la réalité que la réalité, elle est ordonnée. Et qui dit un ordre, qui dit un principe. C'est-à-dire qu'au milieu de toute cette diversité, dans le monde physique, dans le monde végétal, dans le monde animal, dans le monde humain, dans l'univers tout entier, au milieu de cette diversité, il y a une unité et un ordre, un principe d'unité. On est obligé de dire que pour maintenir tout cet univers d'une manière dans l'unité et dans la diversité, sans que ce soit le chaos, Eh bien, c'est ordonner. Et qui dit il y a un ordre, dit il y a un principe d'ordre, c'est-à-dire qu'il y a une réalité à la source de l'ordre. Cette réalité que toutes les traditions religieuses appellent Dieu, et que le philosophe est obligé, s'il n'est pas idéologue ou enfermé dans son dans ses petits schémas, s'il est intelligent, en d'autres mots, il dit, ben oui, je reconnais l'ordre et je reconnais qu'il y a un principe, c'est-à-dire une source. Alors une source, non pas simplement qui aurait été à l'origine un jour comme une chiquenaude et qui aurait laissé l'univers se... Non, il y a un lien actuel entre la source et le fleuve. Nous, on est devant le fleuve, on voit que ça coule, mais on reconnaît qu'il y a une source. Et on reconnaît même qu'entre la source et le fleuve, il y a un contact actuel. Autrement dit, si la source arrêtait d'être source, il n'y aurait plus de fleuve. Donc, constatant qu'il y a un fleuve qui est en mouvement, l'eau est en mouvement, ça passe, ça descend. On dit oui, il y a une source. On peut même remonter, on remonte, on remonte, on remonte. Non seulement on remonte à la connaissance de l'existence de la source, mais on dit que la source, elle est vivante. Elle travaille actuellement, elle fournit actuellement au fleuve ce qu'il faut. Le contact entre la source et le fleuve est actuel. Donc, cette réalité que toutes les traditions religieuses appellent Dieu est vivante. La source, elle est vivante. Dieu est vivant, actuellement. Et s'il crée, si non seulement il crée, mais s'il maintient tout ce qui est dans l'existence, c'est qu'il est en train de bosser. Il est en train de vivre. Et ça fait partie de son activité de créateur que de créer et de maintenir dans l'existence. Il y a donc une réalité qu'on appelle Dieu. Cette réalité est vivante. Cette réalité aussi est spirituelle. Dieu est esprit. Nous n'avons vu aucune réalité matérielle être source d'une réalité sans l'intervention de l'esprit. C'est ce que nous pouvons dire, c'est ce que l'intelligence humaine peut dire, c'est que en partant des réalités matérielles de notre univers, la réalité du vivant et surtout la réalité du vivant humain qui a une âme spirituelle, à la différence des autres réalités, intelligence, volonté. À travers l'expérience de l'âme spirituelle de l'être humain, nous pouvons dire tout à fait, sans même avoir la foi théologale. Encore une fois, ce que je dis là est accessible à tous les êtres humains. Eh bien, nous pouvons postuler à travers les signes de notre âme spirituelle que notre origine, que notre réalité profonde et que notre origine est spirituelle. Le monde et l'homme, paragraphe 33, 34, 33 et 34. Le monde et l'homme attestent qu'ils n'ont en eux-mêmes ni leur principe premier, c'est-à-dire que mon principe premier, c'est pas papa-maman. Je répète, mon principe premier, c'est pas papa-maman. Le monde et l'homme attestent qu'ils n'ont en eux-mêmes ni leur principe premier, ni leur fin ultime, mais participent à l'être avec un grand E en soi, sans origine et sans fin. Ainsi, par ces diverses voies, VOIES, l'homme peut accéder à la connaissance de l'existence d'une réalité qui est la cause première et la fin ultime de tout, et que tous appellent Dieu. Les facultés de l'homme le rendent capable de connaître l'existence d'un Dieu personnel. Mais pour que l'homme puisse entrer dans son intimité, Dieu a voulu se révéler à lui et lui donner la grâce de pouvoir accueillir cette révélation dans la foi. Néanmoins, les preuves, entre guillemets, de l'existence de Dieu peuvent disposer à la foi et aider à voir que la foi ne s'oppose pas à la raison humaine. Un peu plus loin, ce même catéchisme nous dit, au paragraphe 37, « Dans les conditions historiques dans lesquelles il se trouve, l'homme éprouve cependant bien des difficultés pour connaître Dieu avec la seule lumière de la raison. Bien que la raison humaine, citation de Pie XII, bien que la raison humaine, en effet, à parler simplement, puisse vraiment, par ses forces, à sa lumière naturelle, arriver à une connaissance vraie et certaine d'un Dieu personnel, protégeant et gouvernant le monde par sa providence, ainsi que d'une loi naturelle mise par le Créateur dans nos âmes, il y a cependant bien les obstacles empêchant cette même raison d'user efficacement et avec fruit de son pouvoir naturel. Car les vérités qui concernent Dieu et les hommes dépassent absolument l'ordre des choses sensibles. Et lorsqu'elles doivent se traduire en action, en informer la vie, elle demande qu'on se donne et qu'on se renonce. L'esprit humain, pour acquérir de semblables vérités, souffre difficultés de la part des sens et de l'imagination, ainsi que des mauvais désirs nés du péché originel. De là vient qu'en de telles matières, les hommes se persuadent facilement de la fausseté, ou du moins de l'incertitude, des choses dont ils ne voudraient pas qu'elles soient vraies. Quelque part, c'est plus facile de dire « je n'ai pas la preuve scientifique de l'existence de Dieu, quand j'en aurai la preuve, je croirai », ce qui est une erreur, déjà intellectuelle. Alors que la réalité, c'est que lorsqu'on découvre que Dieu existe et qu'il nous aime, eh bien ça change tout. Notre intelligence trouve son repos aussi. Car notre intelligence, elle est faite pour la vérité. Et je suis sûr que vous pouvez témoigner, beaucoup d'entre vous, si le jour de votre conversion, ce n'est pas simplement la dimension affective de votre âme qui a été touchée par l'amour, mais c'est aussi votre intelligence qui a été touchée par la lumière. Et vous avez considéré que tout ce que enseigne l'Église est vrai. Que tout le credo que vous répétez depuis tout petit ou que vous avez entendu, ou des bribes de catéchisme que vous avez entendu quand vous étiez tout petit, après vous avez tout abandonné, le jour où vous vous convertissez, votre intelligence aussi se convertit. Parce qu'elle accède à la vérité. Elle est faite pour la vérité. Elle est faite pour la lumière. Alors, bien sûr, la paresse, c'est un peu notre péché dans lequel nous pouvons tomber en disant « Oh, bah, je ne sais pas bien, vous savez. Oh. » Donc je ne cherche pas plus que ça, parce que bah, y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. Hein. Oh, c'est un peu comme les vaccins. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Bon, donc on suspend le jugement, vous voyez. On dit, bon, ben, ils ont l'air convaincus, mais moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, donc je m'abstiens de chercher. Je m'abstiens de penser, même, parfois. Ça s'appelle la paresse. Vaut mieux chercher et se tromper, et une fois qu'on réalise qu'on s'est trompé, ben on revient, que de ne rien chercher du tout. Parce qu'encore une fois, ça fait partie de notre dignité que de chercher la vérité. L'intelligence, il faut qu'elle cherche, il faut qu'elle creuse, il faut qu'elle travaille. Voilà. Et donc, bon, là, le péché dans lequel notre intelligence peut tomber, ben, c'est la paresse. Et comme je vous disais la dernière fois, même le jour où nous recevons les quelques lumières sur le mystère de la Sainte Trinité, ça n'empêche pas du tout l'intelligence de creuser, au contraire, ça vient attiser son désir de connaître encore plus, de creuser encore plus, d'approfondir sa foi. Parce qu'encore une fois, si notre intelligence se repose dans la contemplation, il y a une partie en elle qui est tout le temps en train de vouloir creuser, pénétrer davantage le mystère. Parce que la réalité est la nourriture de l'intelligence. Et que l'intelligence, c'est une réalité vivante. Nous sommes des vivants spirituels. Et nous avons besoin de connaître et de toujours connaître davantage. Quand on se dit c'est bon, je sais, c'est bon, je connais, un peu de paresse. Du genre, ah ben, mon conjoint, je le connais, hein, c'est bon. Hein. J'en ai fait le tour. Je n'ai plus rien à connaître de mon conjoint parce que je sais exactement ce qu'il va dire à tel moment, je sais comment il va réagir. Ben, ça fait mon père, ça fait 40 ans. Hein, ouais. Non, attention. Bien sûr, vous le connaissez, bien sûr. Mais attention de ne pas tomber dans la paresse. J'espère que votre conjoint est source d'étonnement encore, d'émerveillement, et que vous le contemplez encore et que vous n'êtes pas, j'allais dire, fatigué. Le jour où on se dit c'est bon, je connais, je sais, ben, y a comme une lassitude, une fatigue. Et en plus, on se trompe. Ça veut dire que la réalité ne nous intéresse plus. Ça veut dire que notre intelligence capitule. Alors, elle a besoin de se renouveler, de retrouver l'émerveillement, de retrouver son dynamisme. Voilà, non seulement à l'égard de Dieu, mais comme je vous ai cité, à l'égard des êtres humains, à l'égard de la réalité. Alors, il peut y avoir des périodes un peu comme ça, de fatigue, mais attention de ne pas tomber dans la paresse. Ce que je vous ai dit là fait partie vraiment d'un long et laborieux travail de l'Église qui tient et enseigne qu'il y a deux sources de connaissances, naturelles et surnaturelles. Et qu'à travers toutes ces expériences qui montrent leurs limites, nous pouvons postuler pour quelque chose qui est plus haut, plus grand. La limite, frères et sœurs, et je terminerai par là, cela fait partie des cinq voies d'accès à la connaissance naturelle de Dieu, c'est l'amitié et dans cette amitié, la mort de ceux et celles que nous aimons. Là, ça pose une vraie question. Est-ce que tout s'arrête? Est-ce que toute l'énergie qu'on a mise à aimer quelqu'un pendant des années, et toute l'énergie qu'on a mise à se faire aimer aussi, à accueillir l'amour, à cheminer ensemble, avec des hauts et des bas, est-ce que la mort, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lorsque nous préparons les obsèques, il y a parfois des révoltes. Des gens qui ne croient pas du tout en Dieu et qui vont vous dire, je déteste Dieu parce qu'il a pris ma grand-mère. Oui, mais elle avait 95 ans. C'est un peu à un moment donné, non? Désolé pour ceux qui ont 95 ans. Ben non, la mort est comme quelque chose qui vient nous violenter. Et qui pose, même chez les incroyants, la question de Dieu. Bien sûr, parce qu'à travers l'expérience de la mort de nos proches, pas la nôtre, parce que on en parle, donc on est vivant, mais celle que nous aimons, Voilà. Pour l'incroyance, c'est un point essentiel qui pose la question de Dieu. Est-ce qu'à travers l'expérience de la mort de celui que j'aime, est-ce que c'est la fin de la vie? Est-ce que tout est fini? Qu'est-ce que c'est? Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.